Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted, la dernière de la saison, ça devrait être le dernier épisode avant de vous retrouver pour la rentrée. On est ravi de vous retrouver et surtout on est dans des conditions qui nous font plaisir car on sort du confinement et donc on peut enfin se retrouver avec les petits camarades, notamment Momo qui est là.
Bah moi je vous avouerai que j'étais très content de vous faire la bise en arrivant et du coup vive la dernière émission de la saison.
Et Joachim également présent.
Ouais, ça fait plaisir de revenir, même si bon, j'ai vécu un bon confinement pour ma part.
Et on vous avait sorti donc une émission sur Détroit à distance, qui je l'espère vous aura plu. On a vu un peu vos retours, c'était pas mal. N'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas fait encore et à aller écouter toutes les autres émissions, les autres podcasts, sur deeplyrooted.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle ville et à un nouveau secteur. On va parler de Philly.
Exactement.
Quelqu'un veut présenter l'émission rapidement ?
Bah, on va parler de Philadelphie, la ville de la côte Est, qui est un peu le neveu ou la nièce de New York. Et on va faire un tour, un peu comme d'hab, des légendes, des gens qui ont marqué la scène et des petits nouveaux, des newcomers.
Voilà. Yes. Même s'il n'y a pas une identité ultra forte et homogène, on va faire un tour voilà, des gros mastodontes de la scène. On va s'écouter un premier son qui va vous mettre directement dans le bain.
Une petite douceur,
vous inquiétez pas, après il y aura des choses un peu plus soft, mais on devait commencer par Mick Mill avec l'ami Rick Ross dans I'm a Boss, qui date de 2011, et on se retrouve juste après pour vous parler du rap de Philadelphie. À tout de suite. De retour après ce premier son de l'émission, I'm a Boss de Mick Mill et Rick Ross. On reviendra sur le cas de Mick Mill, qui, vous l'avez vu, adore crier dans des instrus tonitruantes. On y reviendra en fin d'émission. Et donc, on vous le disait en introduction, on va parler de Philadelphie, première fois qu'on s'y rend. Il nous reste encore pas mal de villes à faire. Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, ça va être la fin, mais non. On en a encore pour un moment. Philadelphie, on va faire un petit tour rapide de la ville. Comme le disait Momo, elle vit un peu dans l'ombre de New York, mais c'est quand même une ville importante des États-Unis, historiquement en tout cas, parce qu'elle a accueilli les pères fondateurs des États-Unis, et c'est qu'en 1776, ils ont signé la Déclaration d'indépendance, et en 1787, la Constitution. Est-ce que vous saviez notamment que c'était la capitale des États-Unis avant Washington ?
Oui, moi je le savais.
Car tu avais révisé l'émission, c'est ça ?
Tout à fait, je suis un élève très studieux, sachez-le.
Bravo, un bon point pour Momo.
Je m'intéresse sur cette question, seulement.
C'est donc la sixième ville du pays, 1,5 million d'habitants. C'est aussi un lieu considéré comme important au niveau culturel, au niveau sportif. Encore une fois, Momo, tu vas pouvoir marquer des points. Quelles sont les équipes mythiques de
Philadelphie ? Marquer des points, tu ne crois pas si bien dire. Bah, il y a les
Américains, notamment avec les.
C'est les Eagles de Philadelphie. Voilà. Notamment, j'ai découvert avec Donovan McNabb qui jouait là-bas, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, les Philadelphia 76ers avec mon man de la vie, et qui est Allen Iverson. J'ai un peu découvert le basket avec lui. Donc,
basket, tout à fait. Et les Flyers au hockey, que personne ne regarde en France, mais comme ça, vous le saurez.
C'est vrai.
Et donc au niveau sportif, au niveau culturel, je le disais, avec de nombreux musées, c'est également une ville assez marquée au niveau de la lutte pour les droits, des Afro-Américains, l'abolition de l'esclavage, pour le vote des femmes, et jusqu'au mariage homosexuel il y a quelques années. Et donc vous pouvez aller voir tout ça si vous allez à Philadelphie, de nombreux musées. Ils sont consacrés. On va peut-être passer plutôt à l'histoire musicale maintenant, et c'est Jojo qui va nous parler de ça.
Yes. Du coup, Philly, c'est une ville qui est plutôt connue pour le coup plus pour sa musique symphonique, enfin son orchestre en fait. Pour le reste, le voisinage, comme tu disais tout à l'heure avec New York, fait que ils sont un peu dans l'ombre en fait. Et au niveau de la musique, ça se retrouve aussi. Par exemple, on parle assez rarement du jazz ou du bebop à Philly. Alors pourtant, ça s'est quand même pas mal développé là-bas. Il y a quand même John Coltrane qui a fait ses armes à Philly, avec notamment auprès de Dizzy Gillespie. C'est quand même pas rien, John Coltrane, pour ceux qui connaissent un peu le jazz. Donc voilà. Et sinon, il y a surtout quand même la Philly Soul, donc un courant qui s'est développé dans les années 60-70. C'est un peu un avant-goût de la disco, de la période disco qui va venir à la fin des années 70. On a un peu des éléments de funk dans les cuivres notamment, une grosse présence des cordes, des grosses mélodies de cordes et un chant qui est plus épuré, des harmonies un peu plus pop. Voilà, une sorte de cocktail comme ça qui fait dire à Fred Wesley notamment, qui est le tromboniste de James Brown et de Parliament Funkadelic, qui disait que c'était un peu de la funk avec un costard cravate, quoi, qui est un peu, qui présente bien, quoi, qui... Donc c'est des trucs très sympas, ça s'est développé autour de producteurs comme Leon Huff. Voilà, petite anecdote, qui est l'idole de Juicy J, qui est une de mes idoles à moi. Et donc voilà, il y a plein d'artistes très connus comme les Delphonics, les Billy Paul, Harold Melvin et The Blue Note. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, tout ça, quoi. Ce genre de bail, quoi.
Ok.
Donc pas mal de trucs très connus, hein, dans cette Philly Soul. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le rap. Donc
commence finalement assez tôt, même.
Bah
si
ouais, en fait, ils ont pris très vite le pli après New York. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'était encore à la période disco, du coup, justement. Et c'est à la fin des années 70, et c'est la première rappeuse de l'histoire, en fait, qui s'appelle Lady B, sur le morceau To The Beat Girl, et voilà, qui a une sonorité très disco encore. Et donc voilà, première rappeuse de l'histoire, première rappeuse de Philly en 79, si je dis pas de bêtises. Et c'est plus tard, après, dans les années 80, qu'il y a aussi un rappeur assez notoire qui s'appelle Schoolly D, qu'on considère comme le premier rappeur gangsta, enfin gangsta rappeur, quoi, qui, en tout cas dans son attitude, dans ses lyrics, qui...
Oui, c'est assez tôt par rapport à l'émergence du gangsta rap.
Je veux dire, en général, on dit que c'est N.W.A. pardon, qui a inventé le gangsta rap, parce qu'ils ont...
Moi, j'avais vu que c'était Ice-T, mais justement Ice-T qui rejoint...
Ouais, enfin c'est vrai, oui, t'as raison, mais la West Coast, quoi. Bon, ça vient plutôt de la West Coast parce qu'ils ont amené aussi un nouveau son, et c'est vrai que Schoolly D, pour le coup, en termes de son, c'est pas forcément novateur, mais par contre, au niveau de l'attitude, etc., il avait déjà un peu tout ce qui est associé au gangsta rap, quoi. On avait aussi dans les années 80, je vais parler de ce producteur Lawrence Goodman, qui avait monté un label qui s'appelle Pop Art, sur lequel il avait signé tous les mecs du Juice Crew. On avait parlé du Juice Crew, je sais pas si ceux qui nous écoutent régulièrement le savent, c'est un crew de Queensbridge, donc dans les années 80, avec Marley Marl, plein de rappeurs.
On avait parlé, du coup, c'était dans quel épisode, tu te souviens?
C'était New York, on avait fait deux épisodes sur New York, c'était le deuxième, je pense, qu'on avait fait. Donc voilà, plein de rappeurs très connus, hein, Master Ace, du Roxanne Chanté, Bismarck, enfin voilà. Il s'était signé sur ce label. Il y avait aussi d'autres rappeurs plus locaux comme Steady B, Cool C ou les Three Times Dope. Voilà, donc il avait monté un label qui aurait pu être énorme, voire faire concurrence à Def Jam. Finalement, ça s'est parti un peu en couille parce que je crois que les rappeurs étaient pas assez professionnels. Mais voilà, il y avait quand même tout un truc quand même qui se formait à Philly au milieu des années 80. Et il y avait un truc un peu plus fun, entre guillemets, qui avait mieux marché. C'était un duo d'un rappeur et d'un rappeur bien connu avec un DJ, dont je vais laisser Momo vous parler.
Et ouais, parce que c'est un nom que tout le monde connaît de nos jours, je pense quand même. Et avant de devenir une star mondiale, pardon, Will Smith, notre cher Will Smith, a été un rappeur avec son collègue, ami, qu'il a rencontré durant une soirée, DJ Jazzy Jeff. Et donc ça se passe durant la fin des années 80, ils vont créer un trio qui s'appelle DJ Jazzy Jeff, pardon, and the French Prince.
Ça, c'est son début de carrière, du coup.
C'est son début de carrière, concrètement, avant même qu'il soit acteur. Et leur pote boxeur qui s'appelle Reddy Roxy. Donc, en fait, ce qui fait un peu le charme du groupe, c'est le fait que Jazzy Jeff, il soit très technique, c'est des prods scratchés vraiment à l'ancienne. Et puis Will Smith, il est dans un délire très cool, grand public, ouais, avec des lyrics.
Excuse-moi, Jazzy Jeff, il fait que le scratch, non, il fait pas les prods, il me semble.
Je pense qu'il est un peu dessus quand même. Après ça,
il me semble qu'il est vraiment plus en mode DJ, qui fait son truc. Enfin, à l'époque, tu sais, les DJ étaient beaucoup plus importants aussi.
Ah oui, non, carrément. Donc je sais qu'ils ont intégré le côté beatbox de Reddy dans les prods. Après, dans le détail, je t'avouerai que je suis pas allé plus loin. Mais je sais que ça faisait le charme du groupe, ce côté un peu technique et en même temps très facile. Et ils se font connaître avec un premier single qui s'appelle Girls Ain't Nothing But Problems. C'est pas très féministe, ça, d'ailleurs. Qui met Philly sur la scène, sur le radar de la scène nationale. Donc ils vont sortir plusieurs albums et ça va être plus ou moins tous des succès commerciaux. Il y a un
succès au niveau national, tu veux dire?
Ouais, carrément.
C'est la première star de Philly qui...
Je pense qu'il a, du coup, enfin, tu l'as pas encore dit, tu vas le dire, mais il est devenu aussi star avec la série Le Prince de Bel-Air, donc, qui sort fin des années 80.
Ouais, qui sort...
Donc je pense que ça a aidé aussi sa carrière musicale, quoi.
Bah... Je pense que c'est venu un peu. Enfin, je sais pas si c'est concomitant.
Il s'était déjà fait un nom avec Jazzy Jeff, mais je pense que après le Prince de Bel-Air, ça l'a quand même fait grimper.
Ah oui, oui, carrément, ça l'a propulsé. Et puis pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est Quincy Jones, producteur de Michael Jackson, qui l'a approché pour lui proposer de faire cette série.
Producteur de Michael Jackson et de bien.
Oui, et de bien d'autres. J'ai Michael Jackson pour le plus connu, bien évidemment. Et ils se sont fait aussi connaître avec un single qui s'appelle Summertime, qui sample le titre éponyme de Earth, Wind & Fire, qui est un morceau très cool. Ils vont continuer l'aventure jusqu'à les milieux des années 90. Et après, ils vont se retrouver dans un entre-deux parce que t'as le gangsta rap qui émerge vraiment. Ils sont pas assez techniques et pas assez cool en même temps, pas assez gangsta.
Un peu gentil aussi.
Ouais, c'est un peu fun quoi.
Ouais, voilà, c'est vraiment fun ce qu'ils font concrètement. Même tu regardes leurs clips, c'est bariolé, c'est des situations un peu cocasses.
Du coup, il est considéré réellement par la scène rap comme un rappeur ou. Bah, comme c'est ça qu'on peut se dire nous d'un point de vue extérieur, donc c'est.
Bah, je pense oui, concrètement, il est considéré comme un rappeur. Après, est-ce qu'il a une crédibilité de ouf?
Je pense qu'il est aujourd'hui quand même. Il est respecté, Will Smith, par les rappeurs, je pense, mais il est plus considéré comme un acteur quoi.
Je sais qu'Eminem l'insultait parce qu'il disait pas de gros mots, mais. Parce qu'il a besoin de dire des gros mots entre un rappeur, c'est un autre débat. Mais voilà, mais ça aura quand même eu le mérite de faire connaître Philly
nationalement. Et après, lui, il continue tout seul après dans sa carrière et il sort.
Ouais, il a ressorti des trucs dans les années 2010.
Il a eu des gros succès dans les années 90. Je sais plus comment ça s'appelait là, mais il avait.
Okay. Il avait des trucs à Miami, Welcome to Miami.
Voilà.
Il fait la bande-son de Wild Wild West, il ressort un titre. Et puis il a ressorti des trucs dans les années, fin des années 2000.
Apparemment, il a lâché des freestyles pendant le confinement aussi, il faudrait aller checker.
Ah ouais. Je vais pas checker,
et bah,
mais bon.
Si on n'en parle pas à la fin, il y a quand même dans la famille du coup qui a continué aussi.
Le petit Jaden Smith que je n'aime pas, mais ouais, qui est clairement dans la tendance. Je sais pas s'il est dans la bonne direction, mais il est dans la tendance en tout cas.
Jazzy Jeff a fait des albums solo aussi qui sont sympas. Enfin, en tout cas, j'en ai écouté un qui est assez cool.
Donc voilà globalement pour les débuts de la scène de Philly. Et du coup, bah, on va s'écouter un petit son qui s'appelle Boom Check the Broom de DJ Jazzy Jeff and the French Priest qui est sorti en 1993 et on se retrouve juste après.
De retour dans Deeply Rooted pour vous parler rap US, on vous parle toujours de Philly, donc le rap de Philadelphie. On vient de s'écouter DJ Jazzy Jeff and the French Prince.
Pas The French Priest.
Ouais, désolé, j'ai un peu ripé sur les prononciations de multiples reprises.
On rigolait là-dessus pendant le son et donc c'était Boom Check the Room. Et là, on va parler d'un tout autre style et d'un tout autre groupe qui est The Roots. C'est
ouais,
Joachim qui nous parle de ça.
On passe du Coq à l'âne, comme de toute façon, on va le faire tout au long de l'émission, parce qu'à Philly, il y a différents courants, enfin, pas vraiment justement de courants identifiés. Donc, The Roots, c'est un groupe qui a commencé au début, enfin, déjà s'est formé en fait à la fin des années 80. À la base, c'est surtout, il y a deux membres qui sont importants, c'est le rappeur Black Thought et le batteur. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Questlove, donc, qui est avant tout un batteur, donc, et ce qui en fait la particularité de The Roots, c'est que c'est un groupe instrumental. Voilà, ils se sont rencontrés au lycée, après, il y a en fait plein d'autres membres qui ont rejoint d'autres rappeurs parfois, qui sont venus, qui sont partis, enfin voilà, donc la constante, c'est ces deux-là. Donc voilà, groupe live, on a tendance un peu, en général, dans le rap, bon, il n'y en a pas des masses, hein, mais les groupes live en général, on a tendance un peu à considérer ça comme juste une petite curiosité. Voilà, ouais, c'est intéressant, c'est marrant.
Est-ce que t'as d'autres exemples de groupes comme ça?
Bah, généralement, oui. Enfin, il y a les trucs, tu sais, de Guru, par exemple, qu'il avait fait, Guru, donc de Gangstar, qui avait fait Jazz Mataz. Il y a justement The Goats, qui vient aussi de Philly, qui était juste avant The Roots, en fait, et qui aussi était instrumental. On avait parlé la dernière fois, par exemple, tu vois, de comment il s'appelait, Elzaï, là, qui avait fait un album avec un groupe, un backing band, voilà. Donc, il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a quelques-uns, et généralement, t'as juste un peu tendance à considérer ça comme, ouais, bon, c'est intéressant, c'est marrant, ils font du rap et il y a un groupe derrière, mais bon, dans le fond, enfin, voilà, ça va pas plus loin, quoi. Et The Roots, pour le coup, ils ont réussi vraiment à acquérir un énorme respect, aussi bien des fans vraiment hardcore de rap et de hip-hop que de connaisseurs et de passionnés de musique en général, quoi. Et à Philadelphia, ils sont vachement révérés, quoi. Ils ont même maintenant une rue à leur nom. Voilà. Mais les Roots, à part ça, c'est un groupe live, mais ça ressemble concrètement à quoi? Pour moi, c'est un peu particulier, parce que c'est une sorte de mix entre du rap old school et en fait un truc un peu avant-gardiste, quoi, genre... En fait, c'est un peu la quintessence du hip-hop, en fait, quelque part, parce que c'est à la fois ils font toujours du neuf avec du vieux, quoi. C'est un peu, si on, pour résumer très grossièrement ce que peut être le rap, parce que c'est une définition très basique de ce que peut être tout ce grand merdier qu'est le rap. Mais voilà, ils ont quand même un énorme respect pour la culture, pour tout le mouvement hip-hop. C'est vachement prégnant dans leur musique. Au niveau du rap de Black Thought, par exemple, qui est très technique, très sophistiqué. Mais ils ont aussi toujours fait évoluer leur son. Ils ne se sont pas contentés de justement célébrer le rap et d'avoir ce respect pour la culture. Ils explorent toujours de nouveaux territoires. Ils ont par exemple commencé avec un son très jazz. Au début, c'était vraiment jazz rap, avec t'entendais vraiment les instruments, les lignes de basse incroyables, les claviers, etc. Puis après, ils ont un truc plus dark, puis après, ils ont fait un truc un peu néo-soul, puis après, un peu plus rock. Enfin, ils ont fait vraiment un peu. Ils ont exploré tout un tas de choses dans leur discographie qui est assez élaborée. Ils ont 11 albums. Je vais pas les énumérer parce que bon, ça va être un peu long. Mais franchement, 11 albums, ils sont tous très lourds, quoi. Et je vais quand même en citer 3, mes 3 albums préférés, histoire de donner peut-être 2-3 indications quand même pour ceux qui voudraient se lancer dedans. Do You Want More, c'est leur deuxième album qui sort en 95, qui là t'as vraiment le son jazz rap, voilà, avec le premier bassiste qui s'appelle Leonard Hubbard, je crois, qui envoie du steak à la base, vraiment, genre, pour moi il me fait kiffer, tu vois. Enfin, t'as vraiment ce son de groupe. T'as Scott Storch qui faisait partie du groupe à l'époque aussi.
Il était carrément dans le groupe.
Ouais, il a fait partie vraiment du line-up au début, dans les premières années.
Scott Storch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros producteur des années 2000, et c'est entre autres le mec qui est sur la boucle de piano de Steel Dre.
Voilà. Il a pas mal bossé avec Dr.
Dre. Qui vient pas de Philadelphie, par contre.
Je crois pas, non, pour le coup, je sais plus comment ils se sont rencontrés, mais je crois qu'à la base, il est pas
de Philadelphie. Il devait chercher de la cocaïne, je pense. Tout le monde sait que c'est sa grande addiction. Ah oui, le pauvre.
Du coup, ils font en live et en enregistrement toujours avec un groupe, quoi.
Ouais, après, tu vois, justement, au début, on leur a reproché d'être. Finalement, de pas être complètement hip-hop parce qu'il n'y avait pas les samples, etc. Et c'est vrai que sur leur tout premier album, c'était vraiment. Tu sens que c'est enregistré. Enfin, c'est pas enregistré en live, mais c'est. C'est vraiment un groupe live qui. Il n'y a pas de sample, quoi. Et à partir de cet album-là, justement, ils s'auto-samplent, en fait, au lieu de prendre des morceaux qui doivent être un peu plus faciles, du coup, en termes de droit, tu vois, et de moins se faire chier, quoi. Mais ça rend aussi le truc très intéressant, parce que, et puis t'as quand même, tu sens vraiment une cohésion de groupe. Enfin, donc dans cet album-là, Do You Want More, c'est vraiment, je pense, ce qui représente mieux cette période jazz-rap. Après, leur album le plus gros succès commercial et critique, c'est Things Fall Apart, qui sort en 99. Ça correspond à leur période Soulquarians. Soulquarians, on avait déjà parlé avec Common et JDA dans nos deux précédentes émissions d'ailleurs. Donc, de toute façon, que je suis en boucle depuis 3 émissions à parler toujours des Soulquarians.
Non, mais au moins il y a un petit fil conducteur à travers, c'est cool.
C'est vrai. Mais en tout cas, de toute façon, tout ce qui s'est fait dans cette période-là et par ces artistes-là, franchement, c'est vraiment très très bon disque. Notamment celui-là qui est vachement bien, qui donc du coup intègre vachement le son de Neo-Soul. Neo Soul qui était né avec D'Angelo et qui ont vraiment intégré ça au hip-hop, au rap, quoi. C'est un très très bon album. Autre album que je vais citer, Game Theory, qui marque leur signature chez Def Jam en 2006 et qui pour moi une bonne synthèse entre guillemets. C'est un peu un album qui est au milieu de leur discographie. Moi, je ne peux pas forcément compter quel numéro d'album c'est, mais bon, c'est à peu près au milieu de leur carrière, en tout cas actuellement. Et ouais, c'est un mix un peu entre l'inspiration et les influences de J.D. là, notamment qui a énormément marqué Questlove quand ils se sont rencontrés. Donc voilà, cet album-là, ouais, ça mixe en fait cette influence-là avec les expérimentations rock de leurs précédents albums du début des années 2000. C'est un peu une synthèse, je trouve, un peu de leur son, en tout cas, de ce qu'ils faisaient au début de leur carrière et ce qu'ils font depuis. Parce que depuis, ils sont partis sur un truc un peu plus rond, plus consonant, quoi, un peu vraiment pop-rock, avec des refrains toujours chantés.
Moi, je trouve Game Theory, je trouvais un peu agressif quand j'avais écouté à l'époque. Je sais pas si j'étais un soft rebeu et du coup, j'étais pas pour encaisser.
Il y a des morceaux un peu nerveux, ouais, mais.
C'est-à-dire agressif.
Je sais pas, genre, dans mes parfums, tu sais, c'est ce qui m'a empêché d'écouter du rock au début. C'est pas, alors que je peux quand même écouter des gros beats et des trucs très affreux dans le rap qui m'agressent pas du tout et qui pourraient agresser plein d'autres personnes. Mais il y avait des sonorités, je sais pas, c'est dans les riffs de guitare ou quoi. Alors pas pour The Roots, je parle du rock en général, qui, je sais pas, genre ça m'empêchait de les écouter. Et du coup, dans mes souvenirs, rebuté, ouais, voilà. Alors que je sais pas si t'allais me le demander, moi mon album préféré de The Roots c'est How I Got Over, bien sûr, ouais, avec Things Fall Apart,
qui est magnifique. How I Got Over aussi.
C'est vraiment
2010. Et lui, c'est justement ça ouvre cette période dont je parle là. Ce qu'ils font maintenant, qui est un peu plus consonant, où il y a beaucoup de refrains chantés. Ils ont aussi sorti la même année, je crois, que How I Got Over, ils ont sorti un album avec John Legend.
Ouais. Ça s'appelle Wake Up ou je sais plus.
Wake Up, ouais, c'est ça. Et donc là, ils reprennent des trucs un peu R&B, R&B, Rhythm and Blues, quoi, à l'ancienne, quoi.
Shout out à John Legend, d'ailleurs.
Qui est pas fou cet album, mais il est sympa, quoi. Ils ont fait pas mal de collaborations comme ça, ils en ont fait une aussi avec Elvis Costello. Ça, c'est un peu plus what the fuck. Enfin, si y en a qui connaissent Elvis Costello, c'est du rock, pop rock, années 70-80. Assez intéressant. J'aime bien l'album. Je m'en souviens pas très bien, je vous, parce que je l'ai pas réécouté, mais l'album était plutôt cool. Et voilà, il faut. Sinon, globalement, ils sont quand même pas mal professionnalisés en tant que backing band pour d'autres artistes. Ils l'ont fait pour Jay-Z plusieurs fois pour des concerts.
Backing band, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire pour, soutenir un artiste. Par exemple, tu vois, au lieu d'avoir un DJ, ils vont appeler les Roots.
Oui, il y a un soutien derrière pour faire
l'un des instruments musicaux. Ouais. Donc Black Thought, à ce moment-là, ne participe pas. Il y a une anecdote assez drôle, justement, où il disait qu'à un moment donné, il y avait un événement où ils étaient le backing band, et il y a Bushwick Bill de Ghetto Boys qui n'a pas réussi à rapper, en fait, tellement il était ébloui par le fait qu'il y avait un groupe qui jouait sa musique, et c'est là, genre, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Ça m'avait bien fait marrer. Ils sont aussi, aujourd'hui, c'est le groupe qui joue dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, je crois que ça fait au moins 10 ans qu'ils font ça.
Ça fait même pas mal d'années, ouais.
Ce qui prouve quand même, parce que les groupes de télé, enfin, les groupes qui jouent en télé, c'est quand même généralement, ils prennent pas des guignols, quoi. Donc voilà, ça prouve leur qualité en tant que musicien. Voilà. Sinon, moi je trouve ça globalement, en fait, c'est un peu frustrant, je vous avoue, cette partie, cet exposé sur les Roots, parce que j'adore ce groupe, et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Ils ont une trajectoire vachement linéaire, ils n'ont pas une vie, c'est pas un film, leur vie, comme par exemple comme Gucci Mane.
Et voilà, ils le placent encore, j'y crois pas.
Mais donc c'est vrai, ils ont toujours eu cette volonté de rester discret, c'est un peu, ça a toujours été en eux, ils le disent toujours en interview même, que voilà, c'est important pour eux, ils s'habillent pas, ils ont des fringues très tout à fait normales, ils veulent pas faire apparaître leur richesse ou pas, d'ailleurs on sait pas trop si on s'en fout, tu vois. Donc il y a vraiment cette volonté de rester un peu underground, c'est forcément le mot, mais en tout cas de enfin, pas qu'on les fasse chier, quoi, alors qu'ils restent dans leur coin. Ils ont toujours été un peu, pas moralisateurs, mais un peu, je sais qu'il y avait une époque où ils s'étaient un peu foutu de la gueule de Bad Boy, à la fin des années 90, parce que justement, il y avait toute cette exubérance de sous, etc.
De toute façon, c'est sûr que quand t'entends P. Diddy rapper, t'es obligé de te foutre de sa gueule, mais bon.
C'est ça, mais bon, après, faut pas non plus les prendre pour justement des donneurs de leçons ou des vieux cons qui sont là, qui disent que le rap c'est mieux avant, parce que c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont sorti une série que j'ai pas vu pour le coup, mais qui s'appelle Hip Hop The Songs That Shook America. Donc en fait, ils reprennent à chaque fois un morceau qui a fait évoluer le mouvement, qui a changé le game un peu, et ça peut être des morceaux de tout style de rap, donc ils sont pas fermés, quoi, dans leur choix. Et voilà, donc ça c'est un peu la dernière actu sur eux. Ils sont sortis un son d'ailleurs pour leur prochain album qu'ils ont teasé déjà depuis ça fait au moins 4-5 ans qu'ils ont dit qu'ils sortiraient un album qui s'appellerait Endgame, voilà, comme Avengers.
C'est peut-être les Avengers du rap, finalement.
D'une certaine manière, c'est peut-être ça, ouais.
Bon, pas réellement, mais moi j'aimerais juste dire 2-3 mots. Ce que je trouve cool avec eux aussi, c'est que même s'ils sont à part et pas dans la tendance, ça sonne jamais daté ce qu'ils font. C'est toujours actuel, même si ça reste plus classique.
C'est vrai que je disais qu'ils avaient toujours un peu un côté avant-gardiste, d'une certaine manière, même si c'est pas avant-gardiste dans le sens où c'est pas ils vont pas forcément définir une tendance qui va être suivie par parce que justement ils restent un peu en dehors des tendances. Mais c'est toujours, ça sonne toujours, comme tu dis, assez neuf et pas daté.
Ouais, tu te dis jamais, ouais, vas-y, c'est encore du rap old school qui est relou. Ah, voilà, ça peut le faire sur des rappeurs français, par exemple. Où tu dis, bah, c'est cool ce qu'ils font, mais t'as l'impression qu'ils sont restés sur des samples de violon, piano des années, fin des années 90.
Facilement, et tu peux faire écouter ça aussi à des gens.
À plein de gens, ouais. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour des gens qui aiment la musique, on va dire, globalement, et ouais, c'est parfait, clairement. Tu vois. Et on n'oublie pas de dire que Black Thought, c'est quand même un putain de rappeur,
un putain de rappeur,
putain de kicker, quoi. Il faut pas l'oublier parce que c'est un tueur, ouais.
Il a enfin d'ailleurs sorti ses premiers projets solo, là, en 2018. Deux EP qui sont sortis, qui sont assez cool. Bon, pour le coup, qui font plus daté, je trouve, que The Roots, mais qui sont quand même sympas.
Ok.
Et ben merci pour cet exposé. T'avais terminé ?
Ouais, ouais, non, c'est bon. On peut laisser parler leur musique.
Voilà, on va conclure sur un son comme d'habitude avec Mellow My Man de The Roots qui date de 95.
Ouais, donc l'album Game Theory. Non, pardon, excuse-moi, j'ai dit la merde. De Do You Want More de 95.
On s'écoute ça et on revient tout de suite dans Deeply Rooted. De retour dans Deeply Rooted, on vient de s'écouter Mellow My Man de The Roots que Jojo nous a présenté royalement. Et on va vous parler de State Property maintenant. On ne pourra pas vous parler tout le monde comme d'habitude dans l'émission, mais Momo va nous faire un petit focus sur les personnages.
Exactement. Bah, State Property, c'est l'autre côté de la ville de Philly. On a vu le côté classe instrumental, lyrics de The Roots. State Property, c'est le côté un peu street méchant. Et c'est un peu une histoire de rue, de musique, de business, de prison et d'amitié, quoi. Et State Property, en fait, c'est deux noms. C'est un groupe, mais c'est surtout deux noms de la ville de Philadelphie, c'est Benny Siegel et Freeway. Alors, on va du coup parler des deux. Benny Siegel, c'est un peu le visage de Philly, quoi. C'est vraiment le visage rue de Philly. C'est quelqu'un qui est très, très simple, mais très brut, très vrai. Dit comme ça, ça a l'air un peu stupide, mais c'est vraiment quelque chose qui va le suivre toute sa carrière, parce que c'est pas quelqu'un qui est dans les sbrouffes. Et son histoire personnelle va être très liée à un label qui s'appelle Rockefeller, et Rockefeller, c'est le label de Jay-Z. Parce qu'avant de devenir mari de Beyoncé, il faisait de la musique, le Jay. Et dès le début, on va le retrouver sur ce label et sur un album de Jay-Z qui s'appelle Volume 2, Hard Knock Life, qui contient d'ailleurs le single Hard Knock Life, qui est connu des fans de Jay-Z. Et il va signer sur le label en question. Et dès 99, il va sortir son premier album, le Benny Siegel, qui va s'appeler très sobrement The Truth, parce que... Lui se considère comme un peu une sorte de porte-parole de la rue.
C'est la vérité de la street. Ouais.
C'est la vérité de la street, un peu comme L.I.M. on va dire. Et c'est un album.
Plaisir là.
Ah, voilà. toujours parler d'L.I.M. quand on le peut. Et The Truth, c'est considéré comme non seulement un classique de la ville, mais du rap US. Donc c'est vraiment un mélange de statement. Alors, statement, là je fais mon anglophone, mais c'est genre des paroles, mais qui sont vraies, quoi. C'est tu peux pas trop les contredire, on va dire. Et c'est du conte de rue avec un. Vraiment, la manière dont rappe Benny Siegel, c'est très simple, mais ça percute, quoi. Et puis, il a une voix grave qui porte bien la chose. Et donc, l'album va faire mouche. Et du coup, après ce premier album, Benny Siegel, il va décider de créer State Property, dont on vous parlait au tout début de ce petit passage. Et ça va être un mélange de crew, un peu un label, mais pas réellement. Il va essayer de mettre en avant toute sa team. Et toute sa team, c'est des gens de Philadelphie. Et va notamment y avoir Freeway, le duo Young Guns et Pidi Crack, et les frères Osquinho et Osminio Sparks, mais pour le coup j'ai jamais réellement rien écouté d'eux hormis en feat, et je vais pas vous en parler maintenant. Et pour lancer du coup tout ce délire de State Property, ils vont sortir un film et une bande-son qui va accompagner le film. Et faut savoir que c'était un peu la mode à un moment dans le rap de faire des films et des bandes-sons.
Ouais,
c'était
clairement la période où il y avait tout le monde faisait ses films à ce moment-là, la bande-son associée.
D'ailleurs, la dernière fois, on évoquait un peu l'idée avec Momo de faire peut-être à un moment une spéciale sur les films et les bandes-sons, etc. Ça pourrait être intéressant.
Ah oui,
il y a une bonne idée.
On a de quoi faire, quoi.
Même globalement, de films de hip-hop, il y en a des dizaines et dizaines.
Ouais, c'est un genre, c'est presque un genre à part entière maintenant.
Ouais, carrément.
De rap, quoi,
et comme c'est accompagné d'une bande-son, c'est marrant de voir ça, quoi. Donc ils vont sortir ce film, cette bande-son, ça va faire son petit effet, mais voilà, ça va pas être un truc de ouf non plus. Mais voilà, comme je disais, Benny Siegel, c'est un mec très très straight, très très brut, c'est un mec de la rue. Et malheureusement, les embrouilles et la justice vont finir par le rattraper pour des sombres histoires de fusillades, de port d'armes. Il va aller faire un tour en prison en 2003-2004, et du coup, malheureusement, ses relations avec les autres gens du groupe et un peu du label vont se détériorer. Et il va y avoir il va ressentir un manque de soutien de la part des gens du label, des gens de sa team, et ça va un peu tuer l'histoire de State Property, pas dans l'œuf, mais ça va pas faire perdurer la chose très longtemps. Après, ça l'empêchera pas de continuer sa carrière, de sortir d'autres albums, etc. Mais ça va clairement freiner la dynamique du groupe. Alors moi, je considère que, j'ai écouté une bonne partie de sa discographie, mais pas toute, mais pour moi, mes albums préférés de Benny Siegel, c'est The Truth le premier et The Becoming, qui est sorti plusieurs années après. Je crois qu'il y a Kanye West dessus d'ailleurs, c'était dans ce moment où il produisait un peu
il était partout à ce moment là
ouais, mais clairement il avait redonné une patte à Jay-Z à ce moment là sur je sais plus quel album, enfin il était un peu partout, quoi. Il produisait pour pas mal de gens, et voilà. Mais du coup, Il y a une deuxième tête d'affiche chez State Property et même dans la ville de Philadelphie, c'est Freeway. Donc c'est clairement pareil comme Benny Siegel, c'est un mec de la rue, c'est un mec de Philly, born and raised, comme il dit, c'est une expression, il est né là-bas, il est éduqué de là-bas, il vit là-bas, quoi. Donc c'est un mec qui va se faire connaître d'abord dans les scènes underground, parce qu'il faut savoir, à Philly aussi, il y a une grosse scène underground de battle. Donc ils sont très portés là-dessus, sur l'ego trip, se taper dessus lyriquement, et notamment il y a un célèbre battle qui est connu avec Cassidy. Cassidy aussi, qui est un rappeur de Philadelphie dont je vais pas parler, mais qui a été connu pour... déjà parce que c'était un gros freestyler, et puis il a eu un single qu'il avait sorti, qui était produit par Sweet Beat, et qui a utilisé exactement le même sample pour une chanson de T.I. qui s'appelle Bring Him Out, et qui sample en fait une chanson de Jay-Z, et il y avait eu un
bring
petit...
Him out, bring him out.
Exactement, oui, là tu maîtrises parfaitement l'instru de Sweet Beat, pour le coup, mais voilà, Cassidy avait été connu pour ça, et un featuring chelou avec R. Kelly, mais bon... Le nom de Freeway, ça fait référence à un dealer de drogue qui s'appelle réellement Rick Ross, dont Rick Ross aussi a repris le sobriquet. Il s'appelait Rick Freeway Ross. Bon,
voilà. Rick Ross lui-même n'est pas réellement un vendeur de drogue.
Ah non, Rick Ross, c'est un vendeur de frites, un maton, un entertainer, mais pas du tout un dealer de drogue.
Même il voudrait vous le faire croire. Hein,
Bah, clairement. Bon, ça reste quand même un drôle de personnage. On en parlera un jour, mais bon. Savoir que Freeway aussi, il a été très proche de Jay-Z via Benny Siegel. Il finit aussi par signer sur Rockefeller, où il va sortir son premier album, Philadelphia Freeway, qui est aussi un classique de la ville et qui, pour le coup, va connaître les plus gros singles de sa carrière. C'est un peu dommage parce que tout va se passer au début de sa carrière, notamment Flipside, qui est produit par Just Blaze, qui était clairement le producteur maison de Rockefeller à ce moment. Et on retrouve un peu aussi, comme je disais, Kanye dans le secteur. Et là, pareil, on est aussi sur un pur produit de Philly, ça kick, ça c'est beaucoup d'ego trip. Et Freeway, il a une voix particulière très...
un peu aiguë.
Un peu aiguë et rocailleuse en même temps, c'est très chelou, mais tu reconnais tout de suite quand il va poser. Et Freeway, comme Benny Siegel, en fait, il va avoir des problèmes tout au long de sa carrière, pas forcément avec la justice. Bah, il va se retrouver à être mêlé à des histoires de rue aussi via le label. Via Rockefeller et via State Property, il va avoir un froid avec Jay-Z aussi. Enfin, il y a un froid avec Jay-Z qui va s'installer, mais pas avec lui. Du coup, il va se retrouver un peu à l'écart des autres. Il y a le passage en prison de Siegel qui va faire qu'il se retrouve aussi seul de son côté. Et il y a une autre chose, c'est que Freeway, il est musulman. Et du coup, alors c'est pas spécialement le fait qu'il soit musulman, mais le fait de pratiquer la musique et le rap et d'être dans cette industrie, ça va causer un problème en fait entre sa foi et l'exercice qu'il pratique quotidiennement pour gagner sa vie et la discipline du rap, quoi. Et donc ça va l'amener à quitter le rap pendant plusieurs années, à remettre plein de choses en question. Il va finir par revenir parce que Freeway, il est encore productif, il a sorti des trucs très très récemment. Il a sorti plein de tapes et d'ailleurs ce qu'il fait c'est jamais exceptionnel, mais c'est souvent bon, voire très bon. Et il a vraiment une discographie qui est très cool. Et d'ailleurs très récemment, il a subi une implantation du foie. Le mec a perdu des kilos et tout. Je vais dire c'est marrant, mais non, pas du tout. Mais ouais, ça a pas non plus impacté son rap, mais ça a impacté sa vision. Il est très sa vision de la vie, il est très impliqué dans la communauté à Philadelphie. Et voilà. Et pour les albums que j'ai kiffé de lui, bah, il y a Philadelphia Freeway, son premier album que j'ai vraiment apprécié. Et The Stimulus Package, qui a été fait en collab avec Jake One, qui est un producteur. Et moi, je suis vraiment fan de ce format-là, des rappeurs qui font tout un album ou toute une tape.
Collaboration, duo, ça marche souvent. Ouais. En tout cas, quand l'alchimie fonctionne, c'est souvent génial. Ouais, cet album-là, c'est vrai que je l'ai écouté aussi, j'ai bien kiffé, quoi.
Il est vraiment kiffant, et on en parlait hier avec Jojo. Typiquement, Freddie Gibbs et Madlib, c'est pas du tout des gens de Philadelphie, mais ou même là récemment, Alchemist et Conway the Machine ou avec Griselda, c'est vraiment, je trouve ça fort, des producteurs qui captent l'univers et inversement des rappeurs qui s'adaptent parfaitement ou qui sont dans le kiff
même
total.
Pour être dans l'actualité, Run the Jewels, qui est LP et Killer Mike, bah pareil, ça fonctionne super bien. Ouais. Voilà.
Moi je suis vraiment fan de ce format-là, un producteur, un rappeur, et vas-y, on balance un projet, quoi. Après, bon, pour les autres membres, ça va être des carrières un peu plus confidentielles, les autres membres de State Property. Je vous parlais donc de P.D. Crack, qui est quand même un mec très doué, mais c'est plus des envolées, et puis des rechutes, et ça disparaît un peu. Mais P.D. Crack aussi, il a une voix très particulière.
Et donc
très
State Property, par contre, en France, j'ai pas souvenir de les avoir vus émerger, d'arriver un moment avec un tube ou quoi, donc...
Non, pas réellement, c'est plus les mecs solo. Il y a un côté national, parce que je sais que Flipside, ça avait été le single de Freeway, ça avait été sur la bande-son d'un film de danse qui avait connu son succès à l'époque. Mais en France, c'était vraiment confidentiel, parce qu'ils avaient sorti leur marque il y a un moment aussi, je me rappelle, enfin, j'étais le premier à me saper, en baggy, pas qu'on retrouve des photos de moi à cette époque-là, mais c'était vraiment confidentiel, c'était les gens qui écoutaient du rap, t'achetais tes... t'es cédé à Clignancourt ou je sais pas quoi, ou même à Châtelet. Et c'était vraiment les vrais fans de rap des États-Unis qui connaissaient State Property. Quoi.
Ok, et ben merci pour tout ça. On s'écoute un son de Freeway
et de Benny Siegel et de Jay-Z qui est partout aussi. C'est un titre qui s'appelle What We Do et qui est sorti en 2002. Et on se retrouve après pour la dernière partie.
À tout de suite. On vient de s'écouter What We Do de Freeway, Benny Siegel et Jay-Z. Et on vient pour cette dernière partie de l'émission sur Philadelphie. On espère que vous avez kiffé. On va parler de rappeurs plus récents. Il y en a un que vous avez écouté déjà en tout début d'émission, on vous a balancé un extrait mémorable. C'était I'm a Boss de Meek Mill.
Donc, qui est plus si récent que ça, hein, pour le coup, Meek Mill.
Ça va, il sort encore des tubes finalement.
Non, mais oui, il est encore actif. Oui. Mais je veux dire, c'est, ça fait un moment maintenant qu'il est là.
2010, ouais. Et du coup, Jojo qui avait très envie de parler de Meek Mill, bien sûr. Donc, Meek Mill, personnage. Personnage quand même finalement qui a fait parler de lui ces dernières années pour diverses raisons, sa relation tumultueuse avec Nicki Minaj, son passage en prison qui a un peu retardé son début de carrière aussi, il me semble.
Il a réussi à perdre une guerre avec Drake.
Il a réussi à perdre un clash avec Drake, ce qui pourtant paraît pas évident sur le papier, mais voilà, l'unanimité fait qu'il a été un peu enterré. Il a signé à ses débuts, pas tous ses débuts, mais chez Grand Hustle de T.I.
Attends, ouais. Je savais même pas.
Si, il a sorti quelques mixtapes et c'est là où il a commencé un peu à percer, avant de se rapprocher de
l'étonnant et l'ineffable Rick Ross.
Voilà, chez Maybach Music. Il a sorti plusieurs tubes qu'on a entendu tout à l'heure, M.O. Boss, Tupac Back aussi, qu'on vous invite à écouter.
C'est là qu'il s'est auto-enterré en fait avant de se faire clasher par Drake. À partir du moment où il a signé chez Maybach,
c'est là où il sort aussi de ses gros tubes finalement, à beugler sur des sons de Lex Luger et compagnie.
Non, puis c'est aussi Meek Mill, la tête dont avait besoin Philadelphie aussi pour revenir sur le devant de la scène nationale.
Oui, puis c'est vrai que pour le coup, il est vachement. Il représente vraiment Philly.
À 100%.
On parle souvent, enfin là, il parle souvent de son milieu à lui. Et de sa ville.
Et puis c'est un rider de moto, c'est aussi, il y a une culture comme à Baltimore de rider de moto, de faire des levées de bécanes dans les rues de Philadelphie, et il était dedans quoi dans ce moment-là.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, écouter ce qu'il fait, n'hésitez pas non plus à vite passer à autre chose, parce que c'est pas non plus forcément le plus qualitatif qui se fait.
Ouais, il est très connu pour ses intros sur ses albums, et bah, moi généralement je trouve que les intros sont cool, mais après je vais pas plus loin. Quoi.
J'écoute une track et je squeeze le projet.
Autre rappeur récent, plus récent cette fois-ci, qui cartonne, c'est Petit Uzi Vert, comme on l'appelle,
Lil Uzi Vert, qui a commencé lui plutôt au milieu des années 2010. Bon, alors il est plutôt récent, mais selon ses propres dires, il va bientôt mourir parce que lui, son délire, c'est d'être une rockstar. Il est fan de toutes les rockstars, il est fan même de trucs de punk hardcore, etc. Et,
oui, c'est ça. Alors,
et donc, lui, il veut mourir à 27 ans, comme les gens, ah oui, tu sais, Jimi Hendrix, Kurt Cobain.
Parce que c'est pas le même style, du coup, Meek Mill, c'est quoi? C'est de la trappe.
Ah non, ça a rien à voir. Hein.
Ouais, non, c'est un mélange de tout, quoi. C'est
la grosse
pour le coup, Lil Uzi Vert, il a un peu imité tout le monde dans le rap game. Au début, c'est beaucoup cherché, on va dire qu'il a beaucoup de ressemblances avec pas mal de rappeurs, mais pas avec Meek Mill. Celui-là, il a même pas essayé de l'imiter.
Avec quoi? Avec Lil Wayne?
Lil Wayne indirectement, parce qu'il a influencé plein de monde, mais plus Future, Young Thug. Je trouve qu'au début, en fait, il ressemblait même plus à des mecs comme A$AP Rocky, ses tout premières tapes, ça ressemblait plus à A$AP Rocky ou des mecs de genre le Rider Clan à Miami. Après, il est plus allé dans des trucs un peu trap comme Young Thug et Future, et après, maintenant, il est dans un truc plutôt entre ça et le emo, tu vois, truc un peu larmoyant. Enfin,
le emo rap, donc il faudra qu'on aborde la question à un moment, on ne sait toujours pas comment le caser. D'ailleurs, si vous avez des idées, parce que c'est difficile à identifier comme scène et localement en tout cas, mais il faudra qu'on vous parle de ça un moment. Mais oui, il est un petit peu entre ces trucs là
en tout cas. Oui, il a cette image de, enfin lui, il veut se donner cette image de rockstar et un peu le mec torturé qui est complètement drogué et qui un peu punk, qui respecte rien. Son morceau Exo Tour Life, c'est peut-être un des morceaux emo rap, en tout cas les plus connus, quoi.
C'est qui sort donc son album qui est...
Exo Tour Life, c'était en 2017.
Et son album là, qu'on a écouté avant l'émission d'ailleurs, qui cartonnait, tu te souviens comment il s'appelle?
Le récent?
Ouais.
Ah, le tout dernier, c'est Eternal Attack, qui est sorti donc cette année, en 2020. Il a même sorti un bonus la semaine d'après, en deux semaines, il a sorti... trentaine de morceaux quoi, sur les deux cumulés.
Tous plus qualitatifs les uns que les autres, bien évidemment.
Il y a des morceaux intéressants. Bah,
le problème de L'Illusie Verte, c'est que je trouve que cet album-là, concrètement, il est trop long. Il y a des très bons passages, des très bons morceaux, mais une vingtaine de morceaux, puis après, il ressort en plus 15 morceaux sur l'édition de luxe. Bon, ça fait, au bout d'un moment, c'est un peu trop. Il y a plein de morceaux, donc tu te passes très bien.
Oui, il y en a plein, on peine à trouver l'intérêt non plus du morceau, enfin, l'intérêt du morceau et à voir pourquoi il se démarquerait finalement d'un autre.
Mais sinon, il est très bon en feat, notamment sur Bad & Bougie, du groupe préféré de Mobo, Migos.
Ouais, mon dieu. Toute cette scène qui me fait peur.
Mais donc voilà, pareil, allez faire un tour, allez écouter. C'est la tête d'affiche de
ouais,
bah
aujourd'hui, c'est clairement la plus grosse tête d'affiche, celui qui vend le plus, celui qui attire le plus. Les deux albums qu'il a sortis en 2020, ça a été un carton, quoi.
Du coup, on a fait un peu un tour de la scène. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses très différentes. Comme on l'avait dit au début de l'émission, c'est pas évident de trouver une identité propre à la ville. Il y a eu beaucoup de choses entre The Roots et L'Illusie Verte. Il y a un monde d'écart, voire plusieurs.
Clairement.
Donc voilà, allez piocher dans ce qu'on vous a envoyé. Il y a eu pas mal de noms d'albums, etc. On vous mettra des choses complémentaires, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Deeply Rooted de l'émission sur Facebook, Deeply Rooted FR sur Twitter et deeplyrooted.fr. qui est le site de l'émission qu'on a sorti il y a quelques moments maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les différents podcasts. Ce sera a priori donc la dernière émission de cette saison, c'est-à-dire qu'on reviendra sûrement en septembre pour de nouvelles émissions et de nouveaux voyages aux États-Unis pour explorer les différentes scènes. Voilà, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on se quitte.
Si, parce qu'on parle quand même beaucoup des États-Unis et de la culture afro-américaine, et je tenais quand même à placer un RIP George Floyd et full support à tout ce mouvement.
Un petit mot de soutien, effectivement.
Bien évidemment, on est totalement là-dedans, quoi.
Jojo.
Ouais, bah, je plus sois tout ce qui va avec, en plus même ce qui se passe en France, ce qui s'est passé dans la foulée avec les manifs, etc. Donc complètement, ouais.
Soutien à toutes ces initiatives. On vous dit à très bientôt sur Deeply Rooted et on vous souhaite une bonne soirée.
Gucci! Et un bon été. Ciao, ciao.
Et avant de se quitter, bien sûr, on s'écoute L'Illusie Verte avec Futsal Shuffle 2020. Bonne soirée à tous.